Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Les carnets du soir vous proposent de me suivre comme pèlerin dans différents lieux à Rome, la ville éternelle. Je vous livre différentes pensées et réflexions. Suivez-moi dans cette réalité.
Eh bien, nous sommes rendus à cette finale de ce pèlerinage à Rome. Bon, la finale, c'est Saint-Pierre de Rome. Alors, c'est là que se trouve le tombeau de l'apôtre Pierre. Ce sont des ruines que j'ai déjà visitées. Bon, il faut placer dans l'histoire les choses, parce que l'apôtre Pierre est mort crucifié à Rome dans les années 62 à peu près, crucifié la tête en bas, c'est ce que la tradition nous rappelle, et il a été inhumé dans un cimetière. Donc le Vatican est construit sur un cimetière, et Saint-Pierre de Rome particulièrement. Il semblerait que lorsque on ait préparé le tombeau depuis 12, eh bien là on a trouvé dans les fondations des choses qui ont permis de faire des recherches archéologiques importantes. Et c'est à ce moment-là que vont se faire les recherches et on va finir par découvrir vraiment la tombe de Pierre, de l'apôtre Pierre. Ce qui veut dire que dans les premiers siècles, les gens qui venaient à Rome, les chrétiens, allaient se recueillir au cimetière, là où était enterré Simon-Pierre. Donc, 2000 ans plus tard, ou presque, on a trouvé les restes de l'apôtre Pierre qu'on a déposés dans une urne. Et nous pourrions dire que toute la basilique, en quelque sorte, elle est construite à partir de Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est ainsi que nous comprenons toute la structure de cette basilique construite au XVIIe siècle environ. Alors on sait que la basilique papale était du côté de Saint-Jean de Latran et on a fait construire cette grande basilique avec les arcs de chaque côté. Et bien tout cela viendra plus tard. Et lorsque nous voyons la basilique Saint-Pierre, avec ses arcs, ses colonnes, ses colonnades, eh bien c'est l'image moderne que nous en avons. Mais il faut se rappeler qu'en dessous, ce qu'on appelle les scavi, c'était vraiment un cimetière. Et possiblement que tout cela est devenu le premier cimetière des chrétiens à Rome. Donc, pour la petite histoire, on y va comme ça. Et là, nous allons entrer aujourd'hui dans la basilique Saint-Pierre. Alors, nous entrons du côté d'une sacristie, et là, nous déambulons dans des couloirs, et la première chose que j'ai dans le cœur et que je veux faire, et c'était le désir que j'avais en venant à Rome, non seulement de réaliser, je dirais, ces émissions pour vous, c'était d'aller prier à la tombe de Benoît XVI. C'était vraiment mon premier désir. Benoît XVI est décédé le 31 décembre 2022, donc le dernier jour de l'année. C'est un pape qui a été pape 7 ans. Mais c'est un homme que j'aime et que j'ai aimé et que j'aime toujours parce que je continue de m'instruire et de lire ses écrits. C'est un des plus grands théologiens du XXe siècle et peut-être de l'Église aussi. Alors il sera peut-être un jour, dans des années où je ne serai peut-être plus de ce monde, il sera reconnu comme un docteur de l'Église. C'est quelqu'un qui a eu une parole, une intelligence, toutes les composantes de la théologie assez impressionnantes. Donc, mon désir, c'était de me rendre à la tombe de Benoît XVI. Et avec mon collègue, c'est la direction que nous avons prise tout de suite. Parce que lorsque nous sommes entrés dans la basilique Saint-Pierre de Rome, vous dire le monde qu'il y avait, c'était une foule de personnes, bon, des gens qui ont attendu pendant des heures et des heures pour pouvoir entrer dans la basilique, alors qu'ils sont là, qu'ils sont partout, et avec les portables aujourd'hui, bien, tout le monde est photographe. Ça ne cesse de prendre des photos pour les ramener, pour s'en souvenir. Et ce que j'espère, c'est que les photos que l'on prend, eh bien, que l'on comprenne aussi ce qu'on photographie. Je n'en suis pas toujours sûr, mais quand même, les gens prennent des photos, des photos, des photos. On doit d'ailleurs nous-mêmes être sur des appareils photographiés par des inconnus qui sont comme ça et qui prennent des photos. Même parfois, on fait le détour par derrière la personne parce qu'elle est en train de photographier. Et là, pour ne pas être un obstacle et par charité, on se place ailleurs, on contourne, on fait attention. Bon. Alors, on a traversé cette mer de monde pour descendre. Nous savions le chemin. Alors, pour descendre au tombeau des papes qui se trouve dans la crypte en dessous de Saint-Pierre. Bon. Alors, il faut savoir qu'il y a une crypte. Et là, on inhume les papes, les tombeaux des papes se trouvent à cet endroit. Donc, nous n'avons pas hésité et de façon rapide, nous sommes descendus et nous sommes arrivés devant la tombe de Benoît XVI. Il n'y avait personne devant. Alors que je vous dis que c'est plein de monde partout, et ensuite il y aura beaucoup de monde là où nous sommes, eh bien il n'y a personne devant la tombe de Benoît XVI, comme s'il nous attendait. Alors c'est là que nous nous sommes mis à genoux, sur une sorte de grand prie-Dieu, et nous avons eu le temps de prier. Pas trop longtemps, parce que les gens sont arrivés par la suite, et là nous avons pris le temps de nous déposer et de prier. C'était mon désir. Alors c'est une tombe très simple, on a une sorte d'épitaphe en long, et c'est écrit Benoît XVI, pape. Donc il y avait là deux bougies qui avaient été posées, et sur l'épitaphe, il y a une rose d'or qui a été déposée. Donc c'est très simple, et c'est l'endroit où furent inhumé Jean XXIII, qui devenant saint, on l'a exhumé pour l'amener à la basilique supérieure, je vous en reparlerai tout à l'heure, et après Jean XXIII, ce fut l'endroit où on a inhumé le pape Jean-Paul II. Et après, lorsque Jean-Paul II est devenu saint, on a exhumé son corps. Et on l'a mis aussi dans la basilique supérieure, où on le voit, nous avons d'ailleurs prié devant le tombeau du pape Jean-Paul II également. Et là, aujourd'hui, c'est le tombeau de Benoît XVI. Donc, c'est un endroit particulier. Beaucoup de monde, je vous le dis, on fait la queue, on suit les gens. Les personnes bon, passent. Ensuite, nous allons prier devant la tombe de Saint Paul VI, un peu plus loin. Alors là aussi, je me suis rappelé que c'est le pape de mon ordination. J'ai été ordonné en 1978, le 17 juin. Et le pape Paul VI va mourir le 6 août, le jour de la Transfiguration 1978. Je l'ai vu, le pape Paul VI, en personne, parce que lorsque j'ai été ordonné, j'ai eu le bonheur de faire un grand pèlerinage qui m'a amené aussi en Italie, donc à Rome. Et c'est là que j'ai pu assister à une audience publique du pape Montini, comme on dit, le pape Paul VI, Je me rappelle l'avoir vu, il était criblé de photographes à l'époque. C'était des photographies là où il y a plein de lumière, là, comme on dirait des flashs. C'était particulier de voir cela. Donc il est entré sur une chaise particulière portée par des gens. Et là, nous l'avons vu et ensuite on l'a amené à l'avant, dans la salle Poésis, la salle qui porte son nom. Et là, j'étais avec un collègue et nous avons assisté à l'audience générale un mercredi du pape Paul VI. Je me rappelle, parce que moi, je voyais toujours les photographies du pape Paul VI dans nos églises ou nos institutions, des photographies qui dataient de l'époque où il est devenu pape. Je pense qu'il avait autour de 64, 65 ans. Et là, je le retrouve à 80 ans. Pour moi, c'était un vieillard. Ce fut un choc de le voir si vieux. Peut-être qu'on semblait plus vieux en 1978 qu'aujourd'hui, à 80 ans. Mais le pape était criblé d'arthrite aussi. Donc, on l'a vu marcher des petits pas, pour se rendre à son siège et nous adresser quelques paroles. C'est à peu près un mois et demi avant sa mort. Donc moi, j'ai connu en 3 mois le pape Paul VI, Jean-Paul Ier qui est arrivé en septembre, plutôt en août, et ensuite le pape Jean-Paul II. Jean-Paul Ier va durer 33 jours comme pape, et ensuite nous aurons Karol Wojtyła qui va arriver de Pologne et qui sera Jean-Paul II pendant plusieurs années. Alors tout cela me vient au cœur, évidemment, lorsque je prie devant la tombe de Paul VI. C'est un homme qui a porté, d'une certaine manière, le Concile Vatican II et ses applications, avec les difficultés que nous voyons, que nous avons vécues, des difficultés quand même importantes dans l'Église. On dit que c'est le fait de tous les conciles. Il y a toujours des lendemains qui sont difficiles, mais retenons la joie. Retenons la joie d'une Église qui réfléchit, d'une Église qui prie, des évêques qui ont pensé. Et lorsqu'on lit les textes du Concile Vatican II, eh bien, ce n'est pas de la petite gazette. Ce sont des textes majeurs qui touchent la liturgie, qui touchent, disons, des déclarations théologiques importantes sur Dieu, sur notre foi chrétienne, des documents aussi qui vont toucher la liturgie, des documents qui touchent les relations avec toutes les religions, notamment celle des Juifs. Alors le lien avec le judaïsme, cette encyclique ou ce document qu'on appelle Nostra Aetate, devient un document très important, puisque 2000 ans plus tard, ce lien avec le judaïsme est un lien extrêmement important et qui va porter beaucoup de fruits dans les relations entre les Juifs et les chrétiens. Tout cela nous importe puisque nous sommes partis. La première Église, elle est à Jérusalem. Elle n'est pas en Italie, elle n'est pas à Rome, elle est à Jérusalem. Donc, je vous fais une petite histoire dans le sens où je vous dis ce que j'ai vécu. Alors après, nous allons reprendre le chemin de la remontée. Nous retrouvons devant la basilique à l'intérieur et là nous entrons. Beaucoup de monde, je vous le dis, des groupes en toutes les langues. Et là, on va finir par voir de loin la Pietà de Michel-Ange. Moi, j'ai eu le bonheur en 1978 de la voir intacte parce qu'une personne malade a abîmé la magnifique Pietà de Michel-Ange. Elle a été martelée par quelqu'un qui n'avait pas toute sa tête et qui est monté et qui a abîmé cette sculpture. Moi, je l'ai vu comme on peut voir une œuvre sans avoir une protection d'une vitre, Là, aujourd'hui, on la voit restaurée, mais il y a une vitre devant. Alors, c'est sûr que tout le monde est là. Tout le monde dans la basilique commence et c'est très difficile d'arriver devant parce qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde et ça prend des photographies. Cette Pietà, elle est de Michel-Ange, je vous le disais, et quand on parle, et les guides nous parlent de cette œuvre réalisée par Michel-Ange. Michel-Ange avait 25 ans lorsqu'il a réalisé à Rome cette sculpture. Et les autres sculpteurs, vous savez, dans n'importe quel des domaines, des arts, de la culture, tous les domaines, il y a toujours des jaloux et des jalouses. Il y a toujours du monde qui vont dire « Ah, c'est pas vraiment lui ». Et c'est ce qui se disait concernant Michel-Ange. C'est pas lui qui a fait la Pietà. Il avait 25 ans, on n'y croyait pas. Alors, dans la nuit, Michel-Ange est venu et il a inscrit son nom dans la bandoulière de la sculpture qu'il a faite. Il a signé la Pietà. C'est une bandoulière qui passe sur la poitrine de la Vierge Marie qui tient dans ses bras, le Christ mort, descendu de la croix. Donc c'est cela, une Pietà. Donc il a écrit Michelangelo. Alors, c'est lui qui a réalisé cette Pietà qui se trouve à Saint-Pierre de Rome. Là, nous allons continuer et nous allons nous arrêter quelques instants, nous asseoir et prier devant la tombe de Saint Jean-Paul II. Il y avait du monde. C'est probablement le pape qui a le plus marqué la génération que nous sommes et même celle qui est après nous, puisque c'est un pontificat d'au-delà de 25 ans. Donc, c'est Jean-Paul II qui a marqué la plupart des gens qui sont dans la basilique Saint-Pierre. Évidemment, il y a des jeunes. Bon, Jean-Paul II est décédé en 2005, donc ça fait quelques années. Alors, quand on voit des jeunes de 20 ans, c'est sûr qu'ils n'ont pas reçu la même influence que nous. Jean-Paul II, pour moi, c'est 1978, comme je vous dis. Je suis jeune prêtre et nous allons voir cet homme qui arrive à la papauté à l'âge de 58 ans. Oui, la vie de Jean-Paul II, elle est émaillée de plusieurs événements. Des événements qui sont éclatants, qui sont beaux, qui sont lumineux, mais des événements aussi extrêmement difficiles, souffrants. On se rappelle l'attentat du 13 mai 1981 sur la place Saint-Pierre. Donc on a un choc. Moi, je me rappelle, j'étais vicaire dans une paroisse de Québec et c'était un choc. J'ai pleuré parce qu'on se disait, c'était comme irréel. Alors le pape, et on voyait ces images en boucle à la télévision, donc on a tous ce souvenir de cet attentat et Jean-Paul II a failli mourir. C'est plus tard que nous allons apprendre comment il a pu intégrer cette histoire puisqu'elle est liée à Fatima. Le 13 mai 1917, c'est la première apparition de la Vierge Marie aux enfants de Fatima, Lucie, François, Jacinthe. Et on sait que l'attentat du 13 mai, on connaît ceux qui ont commandité cet acte par une filière autre, mais on sait d'où ça vient. On connaît les causes et on connaît l'endroit où les décisions ont été prises d'éliminer ce pape polonais. Il faut se rappeler que la Pologne a vécu sous le joug communiste. d'un pays puissant qui était dominé par des personnes qui ont fomenté cet assassinat. Et le pape Jean-Paul II va prendre un certain temps pour comprendre ce qui lui arrive et saisir que la date, elle n'est pas anodine. Il y a quelque chose. Et beaucoup plus tard, en l'an 2000, autour de l'an 2000, il va révéler que dans la vision que les enfants avaient eue du pape qui allait être tué, c'est ce qu'ils ont vu dans la vision. Ils ont vu un homme en blanc d'abord traverser une ville qui est pleine de cadavres, qui est pleine de destruction, de tueries, c'est la guerre. Et là, le pape monte sur une montagne, bon, et ça finit par des soldats qui vont tirer, et le pape va mourir dans la vision. Mais les enfants n'ont pas une grande connaissance ni des choses qui se passent dans le monde, ni des pays. Bon, ils vont nous révéler des éléments. La conversion de la Russie, la conversion, prier pour la conversion de la Russie, parce que elle va, si elle ne se convertit pas, elle va répandre partout dans le monde l'idéologie de ses erreurs. C'est vraiment ainsi que les enfants vont parler. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, on peut comprendre que non seulement il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième, et là, aujourd'hui, on a encore des difficultés, d'une certaine manière. Ça plaît pas à tout le monde, d'entendre ces choses-là. Mais c'est ce que les enfants, dans leur innocence, ont raconté des apparitions de Marie à Fatima. On sait que le 13 de chaque mois, du mois de mai au mois d'octobre, la Vierge Marie avait annoncé aux enfants qu'elle apparaîtrait. Donc, et à chaque rencontre avec la Vierge, elle déploie d'une certaine manière le message central de Fatima, qui est celui de la conversion. Si le monde ne se convertit pas, il s'auto-détruit. Et ces forces du mal sont identifiées d'une certaine manière dans le cœur de chacun, mais aussi dans le cœur des nations, parce qu'elle prédit des difficultés extrêmement graves pour toute l'humanité. Ça concerne toutes les nations. On est en 1917. Alors, on est en pleine guerre, la Première Guerre mondiale. Ensuite, il y aura, comme je dis, la Deuxième Guerre mondiale. Et enfin, il semblerait qu'on soit entré dans la Troisième. Alors, Jean-Paul II, c'est cela, devant son tombeau, ce sont ses souvenirs. Moi, j'ai eu le bonheur aussi de souligner d'une manière plus personnelle, comme journaliste à Radio Galilée, j'étais là pour les funérailles de Jean-Paul II que j'ai commenté. Lorsque j'étais à Rome, je suis parti tout de suite en apprenant son décès et je vous ai servi d'une certaine manière tous ces témoignages. Il y avait des centaines de personnes dans les rues. Et lorsque je trouvais des gens qui parlaient français, je pouvais les interviewer, leur demander quels étaient leurs sentiments. Alors je vous ai envoyé toutes ces choses. Dans ma vie plus personnelle, je me rappelle lorsque le pape Jean-Paul II est venu à Québec en septembre 1984, je me rappelle l'avoir vu, de mes yeux vu, assez près, lorsqu'il est venu au stade à Québec, à l'Université Laval. Les prêtres étaient rassemblés dans un endroit. Et là, le pape est venu nous saluer. Donc, nous l'avons vu à ce moment-là. Ensuite, la présidence de l'Eucharistie. Le lendemain, j'étais à François Charron, parce qu'on m'avait demandé de composer un chant pour le pape. Et ce chant devait être interprété à François Charron. Je ne l'ai jamais entendu. Donc, mais j'étais présent dans la salle. On m'avait donné deux billets et on m'avait suggéré de choisir quelqu'un. Donc, j'avais choisi quelqu'un qui était avec moi. J'ai vu le pape sur la scène là, à François Charron, mais je n'ai jamais entendu la chanson. Bon, c'est pas ça qui est important. Ensuite, dans ma vie Je l'ai rencontré le 29 août 1988 à Castel Gandolfo. J'ai concélébré la messe avec le pape, nous étions dans la cour et les prêtres. Et comme il y avait beaucoup de prêtres, je me suis retrouvé avec la foule, donc avec les fidèles, et j'étais aux premières places. Donc, je n'ai pas concélébré dans l'environnement du pape, mais je le voyais devant. J'étais, comme on dirait, dans les premières places comme prêtre. Alors, je l'avais devant moi. Alors, évidemment, j'étais marqué par la piété de cet homme. C'était vraiment très touchant de le voir prier et célébrer l'Eucharistie. Après cela, le pape prenait le temps de prier, une action de grâce, et là, tous les gens attendaient dans la cour pour être salués par le pape. Il y avait des groupes que le pape saluait, mais il y avait aussi quelques individus. Moi, j'étais avec mon père et avec une autre personne, on était trois. Alors on nous a placés à un endroit et on a attendu. Et à ce moment-là, le pape Jean-Paul II saluait les groupes et avant de venir à nous, il était toujours avec les groupes, son secrétaire est venu nous parler, Monseigneur Tivitch. Il est venu nous parler en français. Donc il savait très bien parce que la veille, on avait eu un appel comme quoi nous étions invités à la célébration de la messe avec le pape Jean-Paul II. C'est comme ça que ça fonctionne. Là où on était, on nous a appelés pour nous dire « Soyez là, dès 4 heures du matin, nous étions là. » Alors j'étais avec mon père, j'étais avec une autre personne, et le pape est arrivé à nous. Alors c'était vraiment impressionnant. Et là, c'est moi qui ai parlé parce que mon père était ému. L'autre personne était à côté. Alors j'ai dit, Saint-Père, je vous présente mon père. Nous venons de Québec. Il le savait parce que le secrétaire l'avait dit entre-temps. Ce sont des gens du Canada, francophones, de Québec. C'est un prêtre avec son père. Donc on voyait qu'il avait déjà les informations en cours de route. Donc il est arrivé à nous et il a pris les mains de mon père. Et là, j'ai dit, c'est mon père. Et j'ai parlé d'autres personnes. Et là, le pape, moi, je m'attendais qu'il dise, « Ah, c'est votre père. » Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a regardé mon père et il a dit, « C'est votre fils. » Et là, mon père n'a pas pu répondre, mais il a fait un signe de la tête. Un signe qui signifiait que oui, c'était mon père. Il était trop ému. Mais ça, ça m'a toujours touché. Parce que quand est-ce que notre père, en tout cas mon père, dans nos vies, a l'occasion de dire « c'est mon fils ». On dit toujours « papa, c'est mon père », mais « c'est mon fils ». En tout cas, dans ma vie, ça n'existait pas. Alors, à l'âge de 36 ans, j'entends le pape demander « c'est votre fils ?» Et mon père dit « oui, d'une certaine manière ». Ça me touche énormément. Ça me touche beaucoup parce que je suis reconnu, je l'ai toujours été. Mais dans les fêtes, quand on entend une telle phrase, eh bien, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur. Il y a une relation qui n'est pas nouvelle, mais qui s'authentifie dans la filiation avec le Père. Mon Père m'a reconnu devant le Pape. C'est comme cela que je l'interprète. Et je me suis toujours posé la question, comment se fait-il qu'il n'ait pas repris « Ah, c'est votre père ». C'est sûr que je venais de présenter mon père, mais il demande à mon père « C'est votre fils ?» Je trouve ça beau. Thank you. Ensuite, est-ce que j'ai revu le pape? Oui, je l'ai revu alors qu'il était très malade à Rome, lors des audiences générales. Je l'ai revu vivant et ensuite j'ai vu sa dépouille et j'ai assisté, j'ai concélébré même à la messe des funérailles présidée par le cardinal Joseph Ratzinger. Ce sont des souvenirs impérissables. C'est un des plus beaux moments avec le pèlerinage que j'ai fait à Québec en vue du congrès eucharistique. Ce sont les deux plus beaux moments de ma vie à Radio Galilée. D'avoir été le journaliste d'une certaine manière lors des funérailles de Jean-Paul II et des jours qui ont précédé, et l'autre événement qui est ce pèlerinage en vue du congrès eucharistique à Québec en 2008. C'est des événements clés que je garde dans mon cœur comme des perles qui sont là, auxquelles je pense quand des fois les heures sont plus difficiles. Voilà ce qui termine la prière devant la tombe de Jean-Paul II. Nous poursuivons ensemble, nous faisons une salutation à la chapelle du Saint-Sacrement. Cette chapelle, elle a été voulue par Jean-Paul II. C'est lui, le pape Jean-Paul II, qui a instauré une chapelle d'adoration. Parce qu'il voyait bien qu'à Saint-Pierre, c'était comme une station de métro. Les gens, et c'est un peu redevenu comme ça, là. Parce que tout le monde parle. Ce n'est pas silencieux du tout. On fait le tour, on prend des photos, il n'y a pas véritablement piété. Bon, si c'est comme ça, c'est comme ça. Mais le pape Jean-Paul II avait senti, savait que c'était des choses qui étaient réelles. Donc, il a voulu que ce soit aussi une maison de prière. Donc, il a instauré cette chapelle d'adoration où on peut aller pour se recueillir quelques instants, ou plus longtemps. Ensuite, nous avons continué, et là, nous arrivons au tombeau de Saint Jean XXIII, le pape Jean XXIII. Alors, comme je vous le disais précédemment, on l'a exhumé et on l'a placé dans la basilique supérieure. Mais ça, on le sait aussi. Le corps de Jean XXIII, lorsqu'il est décédé, les personnes qui s'occupent de l'embaumement ont fait un traitement spécial pour le corps de Jean XXIII. Peut-être dans le but qu'un jour, son corps soit exposé. Eh bien, c'est ce qui est arrivé. Lorsqu'il est devenu saint, on a exposé dans une châsse, on le voit. Évidemment, son visage est enduit de cire. Ses mains également, il a les vêtements pontificaux, mais c'est quand même impressionnant. Ce sont vraiment les restes, c'est vraiment le corps de Jean XXIII qui s'est conservé, mais avec une pellicule de cire pour quand même, parce qu'on sait que lorsque le corps est soumis, disons, aux choses extérieures, alors il change de couleur, là. C'est sûr que la peau va devenir beaucoup plus foncée. C'est la même chose pour Sainte Bernadette Soubirous, pour le curé d'Ars. Donc, pour, je crois, le respect des corps, alors on enduit le corps des personnes exposées, des saints et des saintes, comme Don Bosco à Turin également. Alors, on enduit une couche de cire qui est faite par des artistes, évidemment, qui reprennent la physionomie de la personne. C'est impressionnant, les gens s'arrêtent devant le tombeau de Jean XXIII. On pense aussi, on pense au Concile Vatican II. Ça a été bref, le pontificat de Jean XXIII, mais ça a été un éclair du Saint-Esprit, qui a fait basculer l'Église dans la modernité d'une certaine façon, qui fait qu'on réfléchit, on pense, on avance, la barque de pierre avance sur la mer de ce monde en essayant de comprendre cette humanité et de l'aimer et de la servir, puisque cette humanité, elle est au cœur même du cœur de Jésus, qui l'aime, du cœur de Dieu, qui sans cesse aime son Église. Donc, nous allons continuer notre périple et nous allons terminer dans une sacristie. Mon collègue a quelque chose à demander, il le fait, et nous allons quitter la basilique Saint-Pierre. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie quand même. Nous nous sommes arrêtés devant l'urne de l'apôtre Pierre. Il y a un endroit précis où on prie devant les restes de Saint-Pierre. Comme je vous le disais, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les puissances de la mort ne pourront rien contre elle. Je te donne les clés du royaume, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu délieras sera délié. Ce sont des paroles qui ne s'oublient pas. Ce sont des paroles fondatrices. Elles demeurent encore pour nous aujourd'hui, des paroles de vie, des paroles d'espérance pour le successeur de l'apôtre Pierre. Le pape n'est pas le successeur du Christ. Il est le vicaire du Christ, le successeur de l'apôtre Pierre. Alors on a justement, dans un endroit précis, on a toute la liste de tous les papes du début de Pierre, et on a vu en 22, donc on sait que Benoît XVI est mort en 2022, donc son nom est écrit. Le prochain n'est pas encore écrit. C'est Dieu qui sait tout, et on lui fait confiance. Nous sommes sortis de la basilique et nous avons marché en direction d'un cimetière qu'on appelle le cimetière teutonique. Alors, ce sont les Allemands. C'est une expression ancienne qui veut dire les Allemands. Alors, c'est le collège teutonique, le collège des jeunes ou des prêtres qui sont là, qui sont allemands et qui étudient. C'est le seul collège qui se trouve dans l'enceinte du Vatican. Tous les autres sont ailleurs, sont en dehors. Alors on s'y est arrêté, on a prié, on est entré dans une chapelle où on nous raconte que le cardinal Joseph Ratzinger, lorsqu'il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, tous les jeudis, il célébrait la messe avec d'autres prêtres qui s'y présentaient et on nous raconte que c'était toujours impressionnant de voir prier ce cardinal qui, de fait, est devenu le pape Benoît XVI. Alors on s'arrête, on va même causer avec la sacristine qui est une sœur, une religieuse d'une congrégation qui est liée au service du Christ prêtre, et elle vient de Roumanie. Sœur Maria, on lui dit quelques mots, c'est cordial, c'est gentil, elle nous demande d'où nous venons, alors on lui dit qu'on vient du Canada, précisément du Québec. Alors c'est ainsi qu'on peut saluer des personnes, voyez-vous, dans cette chapelle qui appartient aux Allemands, eh bien on a une religieuse qui est sacristine et qui vient de Roumanie. Et elle rencontre deux prêtres qui viennent du Canada et du Québec. C'est cela Rome. C'est le visage cosmopolite de toutes ces nations qui viennent. C'est impressionnant de voir tous ces visages qui veulent entrer dans cette basilique pour toutes sortes de raisons. Des raisons de foi, des raisons pour l'art, des raisons de culture, des raisons de curiosité aussi. Toutes les raisons intérieures qui font en sorte que les gens attendent des heures avant de pouvoir pénétrer à Saint-Pierre de Rome. Il y aura, semble-t-il, au cours de la fin de semaine, je ne serai plus à Rome, mais une grande réunion. On appelle cela la fraternité humaine. On sait que le pape François parle beaucoup et très souvent de fraternité. C'est ça. Donc la fraternité, c'est certainement une marche importante pour l'humanité. Il s'inspire, à mon avis, aussi de François d'Assise. François d'Assise a été son rêve et en même temps sa mission. Lorsque François arrivait dans les villages, il rassemblait tout le monde. Frère François, je vous ai déjà parlé de frère Lou. Donc, cette fraternité entre les personnes, eh bien, à mon avis, elle vient de ce grand rêve que le Seigneur a mis dans le cœur de François d'Assise, lui-même qui va écrire une lettre à tous les hommes. Bon, tous les hommes, ça veut dire aussi tous les êtres humains sur la terre. Vous imaginez ce petit Italien qui a à peine 40 ans et qui écrit une lettre à l'humanité. François d'Assise, ce n'est pas le pape. C'est François d'Assise. Eh bien, il a cet amour de Dieu pour toute l'humanité qui passe à travers son cœur. Et il écrit une lettre à tous les hommes de cette humanité. Ce n'est pas pour rien que le pape Bergoglio a choisi comme nom François. Il n'y a eu aucun pape qui a porté ce nom avant. Et on sait que c'est directement lié à François d'Assise, le frère mendiant. Alors c'est tout cela que nous portons dans notre Église aujourd'hui. Je vous le disais aussi, la place Saint-Pierre, la Via de la Conciliazione, elle est remplie de kiosques. On voit qu'ils se préparent à l'événement. Ça viendra de toute l'Italie. C'est quand même toute une organisation. Mais je pense qu'ils auront un petit pincement au cœur, puisque le pape ne peut pas être présent physiquement. Il est à l'hôpital. Il vient de subir une intervention importante. Il ne sera pas présent. Mais j'imagine que le pape François saura trouver une manière de se dire et de se montrer à tous ces gens qui l'espèrent. La fraternité humaine. C'est un grand pas pour l'humanité si nous nous respectons comme frères et sœurs, avec nos différences, nos complémentarités, tout ce que nous pouvons apporter de beau, de grand, de bon dans l'humanité. Si on s'aimait, il y a même des émissions qui portent ce nom, si on s'aimait. Restons sur ces mots. Et moi, j'ai été heureux de pouvoir vivre ce pèlerinage pour vous, ici à Rome. Je peux vous dire que ça demande beaucoup. Ça demande une présence, ça demande une mémoire, ça demande aussi la force de pouvoir vous parler, de pouvoir raconter de manière très simple et parfois personnelle ce que je vis lorsque je pars pour vous. La fraternité humaine, c'est vous, c'est moi, c'est nous. C'est Dieu avec nous. C'est l'Emmanuel.
C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.